Alors, c'est toujours un immense, d'abord, c'est un immense privilège d'être avec vous parce que, comme on disait ce matin, souvent on est un peu partout et on n'a pas tout le temps l'occasion d'être là, mais c'est toujours bon de revenir dans sa gang, dans sa famille, d'être entouré des nôtres au sein de la famille, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Et merci de m'offrir cette opportunité-là de partager. Et de pouvoir, dans un premier temps, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles de famille, ce qui se passe un peu partout. On a eu au mois de mai notre conférence du district, notre rencontre au sommet. Elle était à Kingston et on a regroupé là donc nos trois districts de l'Est du Canada et réunis ensemble. C'était le thème, ensemble. Et on en profitait, nous, du district Saint-Laurent, pour célébrer le 30e anniversaire de l'Alliance, du district de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Québec, le district Saint-Laurent. L'Alliance existe au Québec depuis 1930. Avant ça, il y avait un poste d'évangélisation à Montréal en 1897 de l'Alliance. Mais c'est pour vous dire qu'on date quand même de loin. On n'est pas des genoux. Mais c'est depuis 1983, donc le district Saint-Laurent, l'Alliance œuvre au Québec. Des gens me demandaient comment ça se fait que l'Église de Lévis et Québec ont fêté le 50e anniversaire, eux autres, puis l'Église chinoise qui ont fêté leur 40e, l'Église haïtienne. Donc, c'est parce que le district existait avant. Lors de cette rencontre au sommet-là, sous le thème ensemble, on a vu comment Dieu nous amenait à travailler justement ensemble et à développer des partenariats de toutes sortes. J'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer il y a quelques mois, enfin 2 mois à peu près, Pierre Illy. Pierre Illy est un Chinois qui vit en Suisse. Et c'est particulier parce que Pierre parle un excellent français et il s'en vient établir une église chinoise dans la ville de Québec. Et c'est vraiment intéressant et il le fait en collaboration avec le réseau de nos églises francophones là-bas. Serge Roy, Mathurin Boignan, Claude Noël collaborent donc à mettre ça sur pied avec lui. Et c'est vraiment un beau défi parce que de se travailler ensemble là, qui se vit, comment cette petite cellule-là a commencé à Québec. Les gens qui y allaient, l'équipe d'évangélistes chinois qui y allaient, demeuraient dans notre église de l'Alliance à Lévis. Et il y avait toute une collaboration qui se fait là et elle se poursuit alors que l'église va être, installé de façon officielle au mois de septembre. On commence également bientôt, dans la région de Québec également, vous savez, je l'ai déjà dit, vous l'avez sûrement entendu aussi, l'espagnol est la seconde langue parlée maintenant dans la région de Québec, et nous débutons une église espagnole dès cet automne. Edgardo Elvia, j'ai oublié son nom de famille, passionné pour le Seigneur, passionné pour l'œuvre de Dieu, il veut revenir au Québec. Il était aux États-Unis après avoir quitté Montréal. Il veut revenir au Québec pour implanter une église espagnole dans la région de Québec. C'est intéressant parce que lorsqu'on avait regardé ça il y a quelques années, nos frères et sœurs hispanophones préféraient se joindre à une église locale existante plutôt que de faire leur propre groupe. Donc, plutôt s'intégrer que de se dissocier. Dissocier est fort, là, c'est d'avoir leur propre chose. Mais maintenant, ils sont prêts à se regrouper puis à adorer le Seigneur dans leur langue, à pouvoir le faire avec d'autres frères et sœurs qui hispanophones également. Et c'est une grande bénédiction de pouvoir leur offrir une opportunité comme celle-là, de rencontrer Dieu dans leur propre langue, dans leur propre culture, avec les leurs. Donc, remercier le Seigneur pour ça, c'est un beau défi, c'est un grand défi également. On commence ici à Montréal, on a commencé il y a quelques semaines une église nouvelle génération. C'est Désiré Mounanga qui est arrivé et qui a commencé donc chez lui ces rencontres-là. On veut effectivement répondre aux besoins qui ont été exprimés lors d'une étude qui a été faite l'an dernier, qui s'intitule « L'Église en hémorragie ». Et qui démontre comment toute une génération délaisse l'Église après un certain temps, donc arrivé à l'âge cégep, université, dans ce groupe d'âge-là, beaucoup abandonnent la foi. On le voit également aussi, donc non seulement parmi les nôtres, le francophone, mais également chez les premières, deuxième, pardon, et troisième génération d'Églises composé de nouveaux Canadiens ou d'immigrants. On voit beaucoup cette désaffectation-là du fait que Beaucoup de jeunes s'identifient mal avec le contenu d'une église de première génération et les besoins typiques de cette génération-là versus les leurs qui sont souvent nés ici au pays, qui ont d'autres besoins. Donc, continuons de prier pour ça. C'est ce que Désiré s'apprête à faire. Donc, une église interculturelle pour une nouvelle génération. C'est également l'orientation du district de vouloir bâtir avec la nouvelle génération un environnement pour que Dieu puisse et que le royaume de Dieu puisse être annoncé aux Québécois de toute origine, de tous horizons. Michel mentionnait le grand besoin qu'il y a chez les gens et chez les jeunes en particulier, et ce vide spirituel qui est là, et on veut trouver des manières de combler ça, et on croit que c'est en adjoignant dès maintenant ces forces vives-là, et non pas bâtir pour eux, mais bâtir avec eux cet environnement-là pour que les Québécois et les Canadiens et le monde entendent parler de Christ. Cette église-là, c'est à Montréal, ici à Montréal, à la salle pour le moment. On est en discussion avec une église locale ici à Montréal. Priez pour ça. L'église chinoise qui est sur le plateau. On vise donc à utiliser leur bâtiment à certains moments parce qu'ils ont un bâtiment d'église justement là. Et on vise donc à utiliser ce bâtiment-là afin de favoriser ces rencontres-là et de développer ce ministère. Ils se réunissent en réalité ce soir à 18h30 chez Désiré Mounanga à la salle. Si vous êtes intéressé, venez me voir, je vais vous donner les coordonnées. C'est top secret. Non, c'est pas vrai. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une présentation semi-officielle de David Pearson dans l'Est du Québec. David, qui vient de terminer ses cours avec Etami Bivi, s'en va comme apprenti pasteur dans l'Est du Québec pendant 2 ans. Et on a voulu appuyer l'œuvre de nos églises dans l'Est du Québec. C'est pas évident, c'est pas facile. L'ennemi est constamment en attaque là-bas. Encore un autre décès. Quand Désiré est parti il y a quelques mois, il y a un homme, un des leaders de l'église à Matane, qui est décédé. Et la dame qui a perdu son mari vient de perdre sa fille, maintenant un même cancer, un autre cancer. C'est vraiment incroyable comment l'ennemi s'acharne de toutes sortes de manières et sur le leadership là-bas. Et donc, continuez de prier pour eux. On a voulu envoyer quelqu'un, un jeune qui va travailler là 2 ans, tant au niveau de la jeunesse que de l'université, sans qu'il y ait de frais pour eux. Donc, on réunit présentement des partenaires un peu partout qui vont accepter de supporter ce ministère-là pendant ces 2 ans-là. Donc, priez pour David Pearson qui s'en va là-bas très bientôt. Donc, c'est tout un beau défi pour lui là-bas. J'ai été à l'église Filippino cette semaine. C'est pas des nouvelles. Vous savez des nouvelles? Moi, j'aime ça. Ben, ça me réjouit parce que j'allais là pour leur annoncer qu'on allait fermer l'église. Okay, j'allais là pour leur dire qu'on ne pourrait pas maintenir le support de l'église et qu'on devrait éventuellement mettre un terme à ce ministère-là. Mais de voir la passion, le cœur des gens. Il faut toujours être attentif au Saint-Esprit au-delà de nos décisions qu'on prend des fois dans certains contextes. Il était 8, 9, peut-être 10 personnes, mais tellement désireux et passionnés pour voir l'œuvre de Dieu continuer qu'on a décidé ensemble de poursuivre, qu'on allait voir comment Dieu allait appuyer cette œuvre-là. Et ces gens-là sont tout simplement tellement heureux de voir que la communauté filipino est prise en charge, qu'elle va survivre, mais c'est parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'il y a un feu dans leur cœur qui veut voir ça arriver. Et vous savez, l'Église, c'est ça. Moi, je dis pas, l'Église, c'est pas un pasteur. L'Église, c'est des gens, c'est des membres. C'est des gens qui croient que Dieu veut accomplir quelque chose et qui va le faire. C'est pas juste, ça repose pas sur les épaules d'un pasteur ou des anciens. C'est vous, c'est moi, c'est nous qui croyons et qui se composons cette Église-là. Et c'est ensemble. Et voilà ma transition. C'est ensemble que ça arrive. Merci Seigneur. On va être en parlant d'ensemble. J'en parlais tantôt, si j'ai le temps. OK. La conférence, le thème, c'était ensemble. Et quand j'ai reçu le thème de plusieurs mois avant la conférence, on avait reçu ça, je me suis dit, bon, c'est intéressant ensemble, mais je trouvais que ça, comme on dit, ça avait l'air à se tenir tout seul. Tu sais, je me dis, bon, y a-t-il un verset avec ça? Nous, on aime ça appuyer par la parole. On aime ça. Là, ensemble, je me dis, écoute, ensemble, ça se retrouve de façon vraiment importante dans le livre des Actes en particulier et dans beaucoup dans le Nouveau Testament. Donc, j'ai fait une recherche surtout à ce niveau-là. Et, effectivement, il ne change pas. Il a changé tantôt. Hein? Ah! Voilà, il fallait le réactiver, il était joué. Effectivement. Et on retrouve donc dans le livre des Actes et dans plusieurs autres livres du Nouveau Testament des résumés brièvement, là, mais des endroits où l'on retrouve le mot ensemble. Et comment ça concernait donc vraiment l'Église et le peuple de Dieu à l'époque. Et on le retrouve déjà dans Actes chapitre 2, verset 1, un passage connu. Ils étaient tous ensemble dans le temple en train de prier, puis ils étaient tous ensemble. Et en Actes 5, 12 encore, vous voyez donc toutes ces références-là, il y en a même une autre page. J'aimerais, montre l'autre page, puis on va revenir sur la première. Oui, l'autre page. Oh, c'est moi qui bouge. Hein, boy. Comme ça. Voilà. Assidus au culte, ils étaient dans la prière ensemble, ils élevaient la voix vers Dieu. Ils étaient réunis pour décider. C'est intéressant que ce même mot « ensemble-là » se retrouve dans tout ce concile de Jérusalem, cette grande rencontre qu'ils ont eue, où ils étaient réunis ensemble pour décider. Ils glorifient Dieu. Et l'autre page? Ils semaient et moissonnaient dans Jean, on lit ça, et ils se réjouissaient, ceux qui sèment, ceux qui moissonnent, l'œuvre de Dieu, ils se réjouissaient ensemble. Et ils étaient encouragés, vivant avec lui, et finalement, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur, cette grande finalité-là. On revient au premier, acte 2, l'autre page, voilà. Tous ensemble, réunis. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'une part parce que quand on le lit, on réalise pas tous les défis qui se sont posés. Mais là, je me disais, en regardant ça, c'est intéressant le mot « ensemble » et après avoir fait une première recherche pour le trouver un peu partout à divers endroits dans l'Écriture, je me suis dit « je vais faire une deuxième recherche ». Et j'ai fait une deuxième recherche avec le mot dans la langue originale. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par son mot? Quand lui en parle, nous on utilise le mot « ensemble » en anglais « together », mais qu'est-ce que lui a voulu dire? Donc, je fais une petite recherche et là on va aller à l'autre page, encore un petit coup. Et voilà, on arrête là. Le mot pour ensemble, c'est homotumadon. Je trouvais que c'était long. Je trouvais que c'était long pour signifier ensemble. OK? Prochaine. Voilà, oui, on l'a su. Ensuite, bon, ça vient de deux mots. La première partie, homo, qui veut dire uni ou à l'unisson. Et la seconde partie, c'est ça, moi, qui m'a fasciné. Tu m'as donc, qui veut dire passionné, enflammé, ferveur, intensité. Quand vous lisez le mot ensemble, quand on lit le mot ensemble, on comprend tout ça. Non. Trouvez-vous? Le mot ensemble, me semble, il rend pas justice à tout ce que ce mot-là, le mot homo tu m'as donc, contient comme force. Et je me suis dit, waouh, comment, c'est donc bien intéressant. Et même dans certains contextes où on retrouve ce mot-là, le mot est tellement fort que dans certains contextes négatifs, il va décrire même une rage. Okay? Pour dire à quel point c'est l'émotion, le sentiment, l'état intérieur est fort dans ce qui est uni. Donc, quand on disait on est ensemble, aujourd'hui on est ensemble. Être ensemble, c'est pas, là on pourrait dire, OK, être ensemble, c'est physique, on est assis, on est là, peut-être ou pas, là, ça dépend si vous avez bien dormi ou pas. On est ensemble pareil, hein, on est ensemble. L'autre diapositive. On est rendu, oui, quick, voilà. Donc, mais, et l'autre. Voilà. C'est, le mot va plus fort. Ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes unis avec une même passion, une même chaleur, une même ferveur. Et quand on est encouragé. Quand on lit tous les passages qu'on a vus tout à l'heure, ils étaient ensemble, ils étaient réunis ensemble, ils priaient ensemble. Pouvez-vous imaginer comment ça fait une lecture différente quand tu sais que le mot que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour nous, c'est d'être unis avec passion, avec ferveur, avec feu. Et je nous pose la question, et on pourrait revenir sur nos versets de tantôt, quand on prie, quand on est uni, est-ce que c'est avec ferveur? Est-ce que c'est avec feu? Est-ce que c'est avec passion? Ou est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut susciter en nous ce feu-là. Et là, je digresse par rapport à ça, donc je vais le suivre un petit peu, puis je vais te dire à peu près où aller. Mais, OK, non, je suis dans l'usure à rester pris dans un moule. Okay. Mais c'est vrai, Dieu veut nous amener à vivre beaucoup plus que cette simple émotion-là qui peut sembler positive. Être en feu, être passionné, être chaleureux, ça n'a rien à voir avec être positif, être enthousiaste, voir le verre plein, des affaires comme ça. Ça a tout à voir avec laisser le Saint-Esprit produire ça en nous. Je pense que là, je suis rendu à l'autre diapositive. C'est intéressant que quand on lit, même on lisait tout à l'heure dans Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble réunis, que il n'y a pas longtemps, juste avant que Jésus soit arrêté et vive ce moment qu'on appelle la passion finalement, qui va vivre ce moment-là difficile, et même à la table, alors qu'ils partagent le repas, qu'est-ce que les disciples font? Souvenez-vous, qu'est-ce que les disciples font à la table? Et Jésus même marche vers là avec eux à un moment donné, puis il leur dit, hey, je m'en vais être crucifié, puis je vais mourir pour le monde. Puis, qu'est-ce que les disciples font? Il faut pas que le pasteur réponde quand même, il est en vacances. Il est en vacances en arrêt de santé. Ils chicanent, c'est donc le fun. Hein? Ils chicanent pour savoir lequel qui va être le premier, lequel qui va être le meilleur, qui va remplacer quand ça va être le temps. Et là, ils se chicanent. Et ils trouvent le tour. Et en plus, non seulement ils chicanent puis ça fait pas drôle, mais et parce qu'il y en a deux qui voudraient être meilleurs, mais les autres sont assez fâchés de ça. Là. Et au lieu de se retrouver ensemble, unis dans un même feu, ils se retrouvent divisés dans une certaine glace. Hein? Ils se retrouvent divisés dans leur sentiment humain qui préfèrent voir leur sentiment humain maîtriser ce que Dieu veut faire plutôt que de laisser le Saint-Esprit faire ça dans leur vie. Et quand on les retrouve dans Acte 2, ce qui s'est passé, il a dû se passer un élément de guérison incroyable avant qu'ils puissent être en mesure de recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai l'impression que le nombre de jours que ça a pris avant, que ça a dû être voulu par Dieu en attendant que ces gars-là, ces filles-là, règlent leurs affaires, puis les règlent comme il faut devant Dieu, pour que dans Acte 2, on puisse dire, hey, on les retrouve tous ensemble, unis, en feu, plein de ferveur, pour recevoir ce que l'Esprit veut donner. Comment est-ce qu'on est, nous autres, face à ça? Est-ce qu'on laisse nos volontés humaines, notre capacité humaine, nos capacités prendre le dessus ou diriger ou maîtriser ce qu'on veut faire, ou est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit venir briser en nous ce qui a besoin de l'aide de façon à ce que lui puisse agir comme il le souhaite? C'est facile d'être ensemble, mais c'est pas facile d'être ensemble au motumadon. C'est pas facile. Et je nous encourage, et Dieu nous encourage, Dieu veut que nous manifestions dans nos cœurs, dans nos vies, ce tumadon-là. Pas évident. Pas évident parce que ça requiert le brisement. On va aller... Okay. Oui, OK, tourne, puis je vais commenter là-dessus. Là, ici. Et vas-y, suivant. On aime ça, c'est fun. Hein? Non, mais le fait qu'on retrouve les disciples ensemble là, et on voit ce que produit ce feu-là et cette passion et cette ferveur-là dans leur vie, quand on lit les actes, et plutôt que de les lire, mettons, pour... parce qu'il y a une façon de lire que tu vas lire les actes et tu vas aller chercher le contenu, le texte. Mais tu as une façon de lire où tu vas chercher, tu regardes les attitudes. Okay, tu regardes comment ils se conduisent, comment ils vivent, comment ils s'échangent les uns envers les autres. Ça change bien les affaires, c'est le fun à lire. Et le fait qu'ils étaient unis ensemble fait qu'on lit des petits passages qu'on va lire, ils partageaient tout, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun parce qu'ils étaient tomo-tumado. Parce que le Saint-Esprit était venu et qu'il avait rempli leur cœur de cette vitalité-là. Pas autrement. Pensez-vous que alors que Jésus est en train de prendre le repas avec eux, puis ils sont en train de se piquer dessus, qu'il était prêt à partager? Il n'était pas prêt à partager. Qu'est-ce qui s'est passé en dedans d'à peu près un peu plus d'un mois et demi? Énormément. Des cœurs qui ont été transformés par la vitalité que vient donner le Saint-Esprit. Ils partageaient tout. On voit ça dans leur vécu. Suivant. Dans leur adoration et leur culte, quand on regarde comment ils font ça, écoutez, c'est pas rien ça. La prophétie qui s'accomplit, et on va cliquer trois fois. Voilà. La prophétie de Joël, et on dit ça, la prophétie de Joël qui s'accomplit, non seulement par le moyen, ils étaient hommes et femmes ensemble. Petit détail quand on lit Actes que souvent on oublie. Quand ça dit hommes et femmes ensemble, on est habitué à ça, nous autres. Mais pas dans les synagogues. D'où ils viennent, eux, ça ne se faisait pas. Avez-vous pensé l'audace qu'ils ont démontré? L'audace qu'ils ont démontré de se réunir hommes-femmes ensemble. Donc, pas juste ensemble, on croit en Dieu, là, mais tous ceux. Quel défi! Quelle audace ils ont eu à indiquer ça. La forme, vos fils, vos filles, vos vieillards et vos jeunes auront des songes, des visions, des prophéties. Tout changeait. Le contenu, des gens qu'on identifiait comme des gens tellement simples, tellement vides, pas éduqués, arrivaient et faisaient des déclarations, des messages, qui convainquait des foules entières avec une persuasion qui venait du Saint-Esprit. Ça, c'est comment leur message, comment leur vécu a été affecté par le tumadon, par ce feu-là, par cette ferveur-là. Ensuite, dans l'exercice de leur ministère, de l'audace. Vous savez, ils ont passé de l'un vers l'autre avec un tellement un grand défi. Mais a fallu qu'il soit brisé pour ça. On ne peut pas passer de l'un à l'autre sans d'abord vivre par le brisement. Et je mettais en lien quelque part, je disais, comment se relie Acte 2, 41 et Luc, un passage dans Luc, où Jésus dit, j'ai désiré vivement prendre cette Pâque avec vous. Quel est le lien entre ils étaient tous ensemble, réunis, et j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous? Bien, le lien, c'est que le mot ensemble, qui est homo tumadon, et là on va changer, se retrouve aussi dans Luc. Sous une autre forme. On y va. Pas encore, encore. encore. C'est le fun. On change. Là, on va changer tout le temps de diapositive. Voilà. Là. Le mot tumadon, ici, on le retrouve encore. Et quand ça dit uni. Dans homo tumadon, ça veut dire uni avec ferveur, avec passion. Ici, c'est le même mot qu'on retrouve. Jésus a désiré avec ferveur avec passion, avec grand désir de manger cette Pâque avec vous. Et puis, tu m'as donc autour. Et c'est vraiment intéressant parce que ça se situe exactement dans la semaine qu'on appelle la semaine sainte ou en français, ou la semaine de la passion en anglais. Et je trouve ça intéressant parce qu'on parle de la passion du Christ comme si c'était... Et nous, quand on parle, si je vous demande quelles sont vos passions, vous ne me direz pas « allez mourir à la croix ». Non, mais c'est vrai, nos passions, c'est comme complètement autre chose. C'est beaucoup plus nos hobbies, ce qu'on fait avec beaucoup plus de fun et ce qu'on aime faire. Mais ici, Jésus, je pense que c'est le temps d'opposer nos passions et la passion du Christ. Et dans ce contexte-là, pour pouvoir recevoir l'homo tumadon avec toute sa puissance, il faut en reconnaître le côté sacrificiel. Il y a un sacrifice et des sacrifices à faire pour vivre ensemble, unis, avec ferveur, avec passion. Dans le texte auparavant, je ne retournerai pas là, mais qu'est-ce que Dieu veut m'amener, moi? Et Jésus donne sa vie. Jésus abandonne tout là pour réconcilier l'humanité avec Dieu et lui offrir une vie de réconcilié avec Dieu. Et Dieu veut qu'on vive cette même chose-là. Dieu veut qu'on vive une vie réconciliée avec le Père et que cette vie-là puisse nous amener à expérimenter la vie de Dieu. Mais Dieu nous dit, comme Jésus a vécu sa passion, toi, moi, sommes-nous prêts à vivre notre passion aussi? C'est-à-dire de sacrifier. Qu'est-ce que Dieu nous amène, nous demande à chacun de nous de sacrifier? De façon à voir son œuvre, à voir le royaume de Dieu s'accomplir, se déployer, rejoindre ceux qui sont perdus. Comment Dieu me parle à moi? Et très souvent, trop souvent, un peu comme les disciples qui se chicanaient, Jésus leur dit une grande phrase importante, alors qu'ils font ça, ils disent ça dans Marc, il leur dit une phrase importante, « Hey, ça ne sera pas comme ça parmi vous. » Dans le monde, on se chicane de même. Dans le monde, les dictateurs, les chefs font ça. Mais vous, ça ne sera pas comme ça parmi vous. OK? Donc, si ce n'est pas comme ça, ça devrait être comment? C'est quoi l'autre, si ce n'est pas comme ça? La réponse est pour chacun d'entre nous, vraiment. Seigneur, c'est quoi que moi je dois abandonner? Hier, je ne sais pas, j'écoutais un film, Les doigts croches, l'as-tu écouté? L'as-tu déjà écouté? Dites-moi oui, Caroline, je ne vais pas être seul à vous. Non, mais un film québécois, Les doigts croches. C'est bon, c'est drôle. C'est parce que c'est des voleurs. Des voleurs qui sont vont sur le sommet, j'espère que Jean-Martin l'a écouté, qui s'en vont sur le sommet de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et au bout du chemin, ils sont censés retrouver l'argent qu'ils ont volé 5 ans auparavant, puis il a été caché. Mais en route, en route, ils disent, ils sont là, le gars, il dit, non, mais on marche là-dessus, on est supposé changer. Puis là, le gars, il dit, comment ça, on est supposé, on a changé une petite chapelle, la plupart en Espagne avant de partir, on est supposé faire ça pour changer. Puis l'autre, il y en a un qui est tellement fru, comme on dit, il est tellement fâché d'entendre ça qu'il ramasse des chaises, puis il les casse partout. Puis là, l'autre, il dit, mais c'est quoi qu'on est supposé changer? Il n'a pas vu que sa colère à lui, c'était peut-être une chose à changer. Mais au long du chemin, les gars, disons-le, changent, et à la fin, c'est un film, donc ils retrouvent tout leur argent volé. Mais pour dire que, sur le chemin, il y a des chemins où Dieu nous fait passer, où il veut qu'on change. Il veut qu'on change les choses. Et mais je vais revenir sur ce sujet-là plus tard, si on décide de me ramener à ce micro. Mais, il y a galère, hein? Okay. Non, mais écoutez, c'est comme ça, c'est vrai. Un des dangers qu'on rencontre dans cette route-là où Dieu nous dit « change », ok, on peut bien fermer ça, non. Un des dangers qu'on rencontre, là, nous, en tant que chrétiens, c'est que on vit une vie. Ok, je vais faire attention comment je le dis. Recevons le bien. On fait une lecture de l'Écriture et on vit une vie chrétienne basée sur la promessologie. La promessologie. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que ce n'est pas Dieu. Quand on base notre vie chrétienne à lire la Bible et à trouver les promesses et à les réclamer, on devient des enfants gâtés. Parce que quand Dieu ne répond pas, on le boude. On devient cynique. Pourquoi moi et pas un autre? Et c'est de l'idolâtrie, mes frères et sœurs. C'est dur à dire de même. Je me souviens, ma mère, elle disait, mon père est décédé, ça fait 25 ans. Et il est décédé d'un cancer. Et ma mère prenait soin de lui. Et elle disait, au début, quand on a appris ça, elle dit, Dieu va le guérir. Parce que mes parents, au début de leur mariage, ont pris soin de leurs parents. Ils les ont gardés à la maison, les deux, pendant une douzaine d'années. Et que dit le seul commandement avec une promesse? Afin que tu vives. Voilà. C'est le seul commandement avec une promesse. Donc, ma mère disait, votre père a honoré ce commandement-là. Il a pris soin, sans compter, de ses parents. Il les a gardés à la maison. Il les a traités quand ils étaient très malades. Et Dieu va le guérir. Et mon père est décédé. Elle nous racontait, parce que j'étais pasteur de ma mère aussi, elle nous racontait lors d'une étude biblique un mercredi soir, elle racontait ça. Elle dit, j'en ai longtemps voulu à Dieu. La promessologie, c'est ça. C'est se faire une idée fausse de ce que Dieu est. Dieu devient un Dieu de consommation. Ce n'est plus toute chose qu'on court au bien. C'est toute chose qu'on court au bien, AUXBIENS. Et ma mère racontait, elle disait, mais elle dit, depuis, je lui ai pardonné. C'est cute, hein? C'est cute, hein? C'est cute. Je trouvais ça cute, je dis. OK. Ça, j'entendais David écrire un psaume ou quelqu'un qui se parlait avec Dieu et qui disait ce qu'il voulait. Ses émotions. Mais, vous savez, c'est ça la promessologie, c'est qu'on se base sur l'Écriture, on choisit nos promesses qu'on veut, on les fait nôtres, puis on les réclame. Mais Dieu n'est pas juste ça. Le Messie souffrant, là, il aurait pu, quand les anges, il dit, l'ennemi lui dit, il lui cite les Écritures, puis il lui cite une promesse. Il dit, ses pieds ne toucheront même pas à terre, tu sais, les anges vont venir le secourir. Les anges viennent dans le jardin, puis ils ne secourent même pas, ils le fortifient. Alors nous, on voudrait éviter ça. Et frères et sœurs, on ne peut pas l'éviter. Parce que la croissance, notre foi, ne se bâtit pas que sur des promesses positives que l'on se trouve et que l'on se donne. Elle se bâtit sur l'ensemble d'un vécu qui est fait de douleurs, de brisements, et c'est comme ça qu'on grandit. Et l'homotumadon, cette passion-là, cette passion que Jésus a vécue, cette ferveur qu'il a vécue, c'est parce qu'il s'était incarné. Ces brisements étaient réels et les victoires aussi étaient réelles. Et on n'a pas la victoire parce que ça a bien été et les promesses se sont réalisées. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas de promesses, là, comprenons-nous, hein, je ne dis pas ça, là, je ne comprenais pas ça. Je dis juste que si on ne vit que là-dessus, et on a plein de livres, promesses de Dieu. On a plein de livres là-dessus, sur les promesses. Hey, lisons l'Écriture au complet. Découvrons Dieu pour ce qu'il est. Et vous savez, ainsi, alors que je comprends et que j'entre dans une relation avec Dieu qui est réelle, alors les brisements viennent. Alors la passion, ma passion personnelle, ma semaine sainte à moi, se vit. Et c'est là où Dieu me fait grandir. C'est là où Dieu vient placer sa ferveur, sa passion, son feu dans mon cœur, dans ma vie. Je parle plus bas parce que je suis ému. Là. Quand ça m'arrive, à matin, on me disait ça. Quand tu parles plus bas, c'est parce que tu es ému. Bon. Non, mais c'est vrai, je suis comme ça. Mais Dieu veut nous inviter à ça, à vivre ainsi une vie de passion parce qu'elle est ancrée en lui. Alors, quand on vient ensemble, comme ça, ne venons pas qu'ensemble. Amenons toute notre ferveur, toute notre passion, celle de personnes qui vivent et grandissent avec Dieu dans leur quotidien, puis qui apprennent à le découvrir lui, pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'on aimerait qu'il soit, et ainsi être ensemble dans un même cœur, une même âme, comme nous dit Philippiens, et de voir son œuvre s'accomplir, et de voir l'œuvre de Dieu se déployer partout. C'est ça, j'arrête là. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Hein. On le voit un peu partout dans les victoires et les défaites que des gens vivent. Quand je vous disais tantôt, je vous parlais de l'Est du Québec, quelqu'un me faisait remarquer, Pasteur Désiré vient de quitter l'Est du Québec, et il a vécu un décès pour chaque année de son ministère là-bas. Les gens superstitieux disaient, ça a commencé avec lui, est-ce que ça va finir avec lui? C'est-tu lui? Ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est pour montrer à quel point, des fois, il faut agir, il faut exercer notre foi et nos ministères dans toutes sortes de circonstances dans lesquelles on est placé. Et on les contrôle pas toujours. Dieu ne nous promet pas de les éviter. Un autre sujet que je voulais vous parler éventuellement, c'était l'oasis, mais dans le verset, dans Ésaïe 54, quand il traverse la vallée des larmes, il la change en oasis. Et ça ne dit pas, il passe pas au côté, c'est pendant qu'il est dedans, c'est quand il traverse la vallée des larmes. Il l'évite pas, il la traverse, il la change en oasis, un lieu de repos. Puis, je trouvais intéressant que le mot oasis, ailleurs dans l'Ancien Testament, voulait dire œil. Discernement. Mais ça, c'est un autre message. Non, mais je trouvais ça intéressant, mais je me suis dit, je pourrais amener ça matin, mais c'est pas sûr que ça allait vous intéresser. Donc, moi, ça m'intéresse, mais une autre fois peut-être. Mais prions au Seigneur afin que nous soyons ensemble dans l'homotumadon, dans tout ce que ça représente de l'être. OK? Prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu n'as pas hésité de vivre avec passion. Mais cette passion-là, c'en était une pour l'humanité, pour ton peuple perdu. Et tu es allé jusqu'au plus grand sacrifice qu'on peut imaginer. Et Père, alors que tu nous invites à marcher dans les voies de ton Fils, nous voulons en retour dire « J'accepte ma passion ». Père, aide-moi à accepter le sacrifice que ça représente. Parce que je veux vivre à la hauteur de ce que toi tu veux pour moi, pour nous. Je veux vivre cette tumadon, cette ferveur, cette passion, ce feu, afin que lorsque nous soyons unis ainsi, ensemble, comme ça, que ce n'est pas juste chacun individuellement dans sa chaise, dans son espace physique, mais que ce soit dans nos cœurs, profondément ancrés, que nous sommes ensemble avec feu en toi. Et que ce feu-là, Père Céleste, se répande dans nos communautés, afin que ton royaume puisse être magnifié et manifesté. Bénis-nous tous, aide-nous à marcher, aide-nous à te découvrir, toi, au-delà des promesses. C'est pas les promesses qu'on recherche, c'est toi. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen.